Bonjour à tous, bienvenue dans Culture et Enjeux, une émission qui vous est proposée par les participants du stage de 48FM. Elle traite de la multiculturalité, des menaces qui pèsent sur elle et de ses défenseurs à travers l'art. Autour de la table, pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons Gabriel, Noémie, Igor, Eden et moi-même.
Bonjour.
L'émission sera divisée en plusieurs parties. La première consacrée à la diversité culturelle de Liège, transmise par son abondance en Erasmus, avec Gabriel et Noémie qui nous ont préparé des interviews.
La deuxième sera consacrée à la musique qui critique les discriminations. Cette partie sera présentée par Igor et Gabriel.
On enchaînera ensuite sur le combat contre le sexisme et la misogynie, mais cette fois-ci en Afghanistan. Et c'est Noémie et moi-même qui vous présenterons cet aspect.
Pour finir, nous parlerons de cet élan de dénonciation et de revendication au Japon qui nous sera présenté par Eden.
Commençons par parler de multiculturalité qui est fort présente dans notre cité ardente.
Liège est une ville avec une très grande mixité. On y voit beaucoup de différentes langues et traditions. Comment réagissent les gens par rapport à cette multiculturalité? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre. Au programme, des témoignages, des rencontres et bien sûr un micro-trottoir pour recueillir vos impressions.
Liège est une ville qui évolue beaucoup, avec une histoire d'immigration importante, notamment en raison de son passé industriel. Aujourd'hui, des communautés de différents horizons vivent ici. Ce phénomène crée un véritable mélange culturel que l'on voit à travers les événements, les commerces, mais aussi dans les quartiers. Que ce soit à travers la gastronomie, la musique ou même les fêtes traditionnelles, Liège se distingue par sa capacité à intégrer différentes cultures tout en préservant son identité propre.
Nous avons promené notre micro dans la rue et nous avons récolté votre avis.
Donc, qu'est-ce que vous pensez de la multiculturalité à Liège?
Je pense que c'est quand même quelque chose d'important. On a besoin d'un peu connaître toutes les cultures et chaque culture peut nous apporter quelque chose de bien. Donc, moi, je pense que c'est un atout.
C'est fantastique, mais il y a des gens que ça perturbe. Donc, beaucoup de gens disent que c'est génial d'avoir plein de cultures qui se diversifient et que plein de gens des quatre coins du monde se regroupent, mais ça crée aussi des pertes d'identité parce que les gens ne savent pas trop en quelle culture se mettre, comment se présenter et avec quel code communiquer. Donc je crois que ça a ses avantages et ses défauts.
Moi, je pense que c'est quand même une bonne chose parce que c'est ce vers quoi on va tous. Donc oui, moi je suis pour. Pour autant que ça se passe bien, c'est-à-dire que tous ceux qui viennent en étranger fasse l'effort de s'intégrer, quoi. Elle ne constitue pas des ghettos.
Je trouve que c'est ça qui fait la richesse dans notre ville et que c'est vraiment essentiel et je suis très fière de notre ville par rapport à ça.
En entendant l'avis des Liégeois, on comprend que tout le monde n'est pas d'accord, mais l'avis général est positif.
Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien d'avoir plein de cultures comme ça?
Différents points de vue. Ça permet aussi de se remettre en question sur certaines choses. Pour des choses, par exemple, dans ma culture à moi, où c'est interdit, où on ne fait pas ça, on fait ça de telle manière, tu vas voir que dans une autre culture, dans une autre ethnie, ils font ça d'une différente manière aussi, ou que, par exemple, chez eux, c'est autorisé ou pas. Enfin, voilà, quoi. Ça permet aussi de voir aussi, d'une certaine manière, de se mettre à la place de l'autre et comprendre un peu comment, enfin, essayer en tout cas de comprendre pourquoi c'est comme ça chez eux et pourquoi c'est comme ça chez nous, quoi.
Un regard nouveau sur le monde, ça lève des stéréotypes. Et ça permet d'apprendre à mieux vivre ensemble.
Économiquement parlant, je dirais que c'est une bonne chose, évidemment. Mais socialement, on voit un peu quand même ce que ça donne, quoi. Enfin, les gens ont rarement une bonne image de Liège, je trouve. Et je pense que ça joue un rôle, honnêtement.
Sur cette deuxième question, tout le monde est unanime et trouve que la mixité leur apporte à tous une remise en question, une découverte culturelle et une fierté pour certains.
En plus de l'immigration, on peut noter une autre raison de cette forte abondance de culture à Liège. Gabriel.
Oui, on peut remarquer une très grande abondance d'Erasmus. Alors, sont-ils eux aussi discriminés dans la société? Et compte-t-on une jeune étudiante étrangère qui a choisi d'étudier à Liège? D'où venez-vous?
Je viens d'Italie.
Et pourquoi avez-vous choisi d'étudier à Liège?
J'ai choisi Liège parce que je suis tombée amoureuse de la Belgique pendant mon Erasmus à Gand. Mon rêve était de trouver une université pour faire un doctorat en chimie. Je voulais être en Wallonie, car en tant qu'italienne, j'avais l'impression qu'apprendre le français serait plus facile que le flamand.
Vous êtes-vous déjà fait discriminer à cause de vos origines?
Quand je suis arrivée, je ne parlais pas français. Je me suis sentie discriminée.
Que s'est-il passé?
dans les lieux publics comme la cité administrative ou la banque, personne ne parlait anglais. Heureusement, j'ai trouvé des personnes qui parlaient italien et qui m'ont aidé. Sinon, je ne sais pas quoi j'aurais fait. En dehors de l'université, quand les gens comprenaient que je ne parlais pas français, ils semblaient agacés. Certains raccrochaient le téléphone ou arrêtaient la conversation brusquement. Mais quand j'ai commencé à parler français, même avec un peu, seulement un peu de vocabulaire et seulement trois temps verbaux, j'ai trouvé des personnes patientes. Elles m'écoutaient et me corrigeaient. Ici, les gens savent que le français est difficile et apprécient les efforts des étrangers. C'est très différent de la réaction quand on parle anglais. Ce changement d'attitude m'a semblé bizarre.
Liège vous semble-t-elle accueillante?
Liège me semble accueillante. Il y a beaucoup d'événements pour rencontrer des gens et commencer à se sentir chez soi.
Suivez-vous la politique?
Je suis la politique belge et européenne grâce au podcast, au journal, à la télé, sur la Une et à la newsletter de les soirs.
La situation actuelle vous inquiète-t-elle?
Pour l'instant, j'ai un contrat de doctorat pour 3 ans encore. Je ne suis pas inquiète pour le moment, pour le futur. Mais à la fin de mon doctorat, j'aurais peur de ne pas trouver travail ici et de devoir retourner en Italie. J'aime Liège et j'aimerais y rester longtemps.
Pour conclure, on peut dire que l'intégration à Liège semble assez facile. Avec quelques bases de français et l'entraide culturelle est plus ou moins présente en fonction des ethnies.
Merci Gabriel et Noémie pour votre chronique, ce qui clôture notre sujet sur la multiculturalité. Je vais maintenant passer la parole à Gabriel et Igor qui vont nous expliquer comment la musique populaire réagit à ces discriminations.
En effet Juliette, et pour introduire ce sujet, nous sommes allés interroger quelques personnes dans la rue sur l'avis qu'ils ont de la musique dite engagée, cette musique qui combat les discriminations et qui revendique.
Je pense que les revendications de bonnes causes sous toute forme d'art est quelque chose de bien, notamment la musique, parce que la musique ça permet de faire passer des paroles avec des émotions, ce qui peut avoir plus d'impact dans nos paroles au final.
Oui, il y a certaines musiques que j'aime bien écouter un peu dans cette thématique. J'aime bien, mais ce n'est pas un type de musique que j'écoute tout le temps, ou spécialement que je cherche ce type de musique contre la discrimination ou de cette thématique. J'écoute des musiques qui parlent de tout. Ce n'est pas un type de musique que j'aime plus que l'autre. Normalement, j'écoute des musiques de différentes cultures. Chaque langue, il y a une certaine façon de voir le monde et les relations entre les personnes. Alors, je peux dire que j'écoute un peu beaucoup tout, mais pas sur une seule thématique. Je pense que c'est bien comme une façon d'exprimer les choses, surtout quand tu sens des pressions. Par exemple, toi, il y a des guerres entre pays et sont des choses qui font mal. La musique, c'est une expression de cette chose qui passe dans la culture. Alors, oui, j'aime bien et je comprends. La seule chose que je peux dire, parfois, je sens qu'il y a des musiques qui répète un peu une thématique qu'aujourd'hui la culture a changé beaucoup. Bon, on doit changer quelque chose quand la réalité, c'est pas comme avant. Ça, c'est peut-être une observation que je peux faire dans la musique. Et aussi, autre chose que je peux dire, écoute une chanson il y a 60 ans, moi, ne me dérange pas que les choses qui expriment la chanson, si tu les dis aujourd'hui, les gens vont dire « Ah, ça c'est mal parce que tu fais une discrimination. » Mais pour moi, c'est bien parce que je sais que c'est une chanson dans le contexte culturel. C'est pas que je vais dire « Non, je n'écoute pas cette chanson parce que c'est pas correct. » Tu vois? Si c'est une chanson qui c'est bien, je peux faire la différence entre « Ok, aujourd'hui, tu ne peux pas écrire une chanson qui dit ça parce que la société a changé. »
Et en rentrant de cette aventure, nous sommes aussi allés poser la question à des étudiants présents dans les locaux de 48FM.
Je pense que même en t'engageant pas de manière excessive ou claire, tu vas quand même transmettre par ta musique un engagement. Pour moi, des groupes qui étaient vraiment super engagés, c'est genre Nirvana par exemple, ou Rage Against the Machine, tu vois. Genre vraiment, t'avais un message clair dans les textes et dans les morceaux qu'ils voulaient véhiculer. C'est des groupes qui sont restés dans l'histoire encore maintenant, dont tout le monde parle parce que ça a vraiment marqué une époque, mais pas que l'époque, ça a été au-delà en fait de ce qu'ils voulaient dire à la base. Et je pense que maintenant, tu prends des groupes qui même eux en fait finalement s'engagent pas ou se revendiquent pas d'un parti ou n'ont pas forcément véhiculé des idées de manière claire et précise. Ça va quand même traduire un engagement derrière la musique parce que tu joues un style, t'as des paroles et ces choix sont conscients, c'est toi qui en tant qu'artiste tu les fais. Mais t'es aussi en tant que personne derrière ta musique. Ça reste ta personne qui fait la musique. Finalement, le vouloir ou non, tu restes quand même engagé, enfin, je pense, personnellement.
Dire aussi qu'il y a des années, la musique était, je trouve, beaucoup plus liée à la politique. Comme artiste engagé, qu'on pourrait parler actuellement, c'est quelqu'un comme Angèle, tu vois, qui là, avec les problèmes sociétaux que tu as actuellement, cette meuf s'identifie comme féministe. Et si tu regardes beaucoup de ses morceaux, par exemple, je crois que c'était Taren qu'elle avait fait, elle parle vraiment d'une relation de femme à femme. Pour moi, ça, c'est une artiste engagée au XXIe siècle, mais j'en connais pas 50 qu'on pourrait dire, qui tapent dans la tête où tu te dis « Ok, là, c'est vraiment, vraiment engagé parce que la société fait que la musique tire de plus en plus vers le loisir que la dénonciation comme avant. »
Ce qu'il y a, c'est que si tu t'engages dès le début dans ton projet, ben, en fait, tu vas de plus te fermer à une tranche de la population que tu pourras peut-être pas en fait, atteindre avec ta musique. Donc, s'engager, c'est vraiment, de un, c'est un choix fort. Donc, tu vas sûrement te faire une communauté de fans qui est super assidue, mais d'autres personnes qui vont par contre pas du tout en fait te suivre parce qu'ils vont être carrément opposés à tes idées. Et donc, ça, c'est super important aussi. Et je pense que c'est à une époque du... Tu t'engages moins, peut-être par volonté de toucher plus de monde ou par peur de toucher justement moins de monde.
Nous pouvons remarquer ces combats, par exemple, dans le titre « Arrêt du cœur » de Kalash Criminel et Caris, où c'est le racisme envers les personnes d'origine africaine qui est dénoncé, ainsi que les restes de la colonisation toujours présente dans notre société.
Sauvage et le Zaïrois, sauvage et l'Ivoirien, tout ce que j'ai retenu de la Marseillaise, c'est aux armes citoyens, africains sauvages. Sans oublier que le jour de gloire est arrivé, ici le produit est tarifé, et s'il y a problème mon gars on va le clarifier. Au comico tout nié, regarde si tout y est, cette année je vais tout plier. Obama une carotte, m'a juste fait roupiller.
Ah ouais.
Pendant ce temps là en Afrique en train de tout piller. Je fais du bien et du mal, mais le bien ils ont oublié. Je leur mets des coups de pression, en plus sans trop crier.
Oyoki.
Je suis albinos parce que je suis né pour briller. J'écoute pas les actes qui paraissent, les on m'a dit, encore moins les soi-disant.
Sauvage.
J'incite pas à la violence, mais Annick, ta mère, égale un mec ensemble.
Dans cet extrait, deux phrases retiennent notre attention. Pendant ce temps-là, en Afrique, en train de tout piller, dénonce la paradoxale situation de pauvreté dans plusieurs pays africains faisant partie des plus riches nations en ressources naturelles.
Leur mauvaise gouvernance et les conflits parfois accablants dont ces pays sont victimes favorisent cette machine à piller, les multinationales profitant de ces situations et détournant les dispositions publiques à des fins privées. On peut y voir comme une sous-considération de ces pays, étant parfois seulement considérés comme des réserves de ressources.
Et rien n'a changé, pourtant l'esclavage a été aboli. Cette phrase, bien qu'un peu extrême, reflète les discriminations vécues par ceux d'origine étrangère et ceux dont le physique est jugé de la même manière.
La lutte contre ces discriminations n'est pourtant pas récente, comme on peut le remarquer dans le titre de Charles Aznavour, comme ils disent. Ce titre, publié en 1972, prend parti sur des sujets assez controversés à l'époque, l'homosexualité et la transsexualité, tous deux considérés comme des pathologies psychiatriques par les experts de l'époque, comme dans cet extrait par exemple.
Je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie. Si dérisoire à ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame, car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme, comme il dit.
Dans ce morceau, il prend le rôle d'un homme homosexuel et nous dit que l'homosexualité est naturelle et que ce n'est pas lui qui a choisi d'être ainsi. Une mentalité très avant-gardiste pour l'époque. Mais le rap prend aussi position, et cette fois-ci d'un point de vue politique.
En effet, des dénonciations à propos de l'extrême droite, du nationalisme et des conséquences que ceci engendre sur la société ont également lieu à travers la musique populaire.
Et pour continuer sur ta première proposition, Gabriel, je parlerai de ces contestations au travers du rap contemporain. Un morceau que je trouve particulièrement explicite et pertinent à ce sujet est la chanson « L'odeur de l'essence » d'Orelsan, qui paraît en 2021 dans son dernier album « Civilisation », parlant de la mystification pratiquée par l'extrême droite et les mouvements xénophobes.
Un morceau qui parle aussi de la tyrannie d'une liberté d'expression exacerbée au sein des médias.
Mais avant de vous en parler, on se fait une petite pause musicale. On écoute Candy Shop de 50 Cent.
Yeah. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa.
I'll take you to the candy shop.
Yeah.
One more taste of what I got.
Uh-huh.
I'll have you spending all you got.
Come on.
Keep going till you hit the spot.
Whoa. You can have it your way. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be a, I'll be a in the hotel or in the back of the rental. On the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your fans teasing you about how sprung I got you. Wanna show me you can work it, baby? No problem, get on top, then get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to this shit. After you work up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your mouth, girl, not in your hand.
I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. One more taste of what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa.
Girl, what we do.
What we do.
And where we do.
And where we do.
The things we do.
Things we
are
do.
Just between me and you. Nice and slow, climb on top, ride like you're in a rodeo. You ain't never heard it sound like this before, cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she get the pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker. Isn't it ironic how erotic it is to watch and had me thinking about that after I'm gone. I touch the right spot at the right time. Lights on, her lights off, she like it from behind. So seductive, you should see the way she whine. Her hips in slow-mo on the floor when we grind. Long she ain't stopping, homie, I ain't stopping. Dripping wet with sweat, man, it's on and popping on my champagne campaign. Bottle after bottle, it's on. And we gon' sip to every bubble and every bottle is gone.
I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. Lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. One more taste of what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa.
Vous écoutez toujours Culture et Enjeux, l'émission qui parle des enjeux de la culture vus par les jeunes. Et on continue notre analyse de chansons avec L'odeur de l'essence d'Orelsan.
La première partie du morceau met en évidence les manipulations du nationalisme sur l'opinion publique. Le fait que celui-ci lui insuffle la peur pour entraîner la haine et la discrimination envers certains, en dépit de la diversité culturelle et de pensée, comme le démontre cet extrait.
Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne n'en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé.
Ou encore, un peu plus loin, l'expression de ce que tu évoquais, Gabriel, à propos des médias et de la réduction des débats, de leur similitude dans cet extrait.
Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe.
Ces paroles parlent de l'affolement dans le débat public, du fait que celui-ci étant de plus en plus trouble, et surtout au niveau des réseaux sociaux, n'a plus de signification et n'avantage plus que les plus bruyants, par conséquent les plus puissants.
On peut également parler du titre « Balance ton quoi » d'Angèle. Dans sa chanson, l'artiste parle de la stigmatisation dont les femmes sont victimes et de l'amoindrissement de la valeur de leurs paroles. Elle évoque également leur mauvaise représentation au sein de la société et dans l'industrie du rap. On écoute un extrait.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes.
On remarque bien dans les paroles, j'ai vu que le rap est à la mode et qu'il marche mieux quand il est sale, faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. L'expression de la différence d'importance accordée à la pensée masculine qu'à la pensée féminine.
Et en parlant de féminisme, je passe le micro à Juliette qui aimerait parler d'une femme, Sonita Alizadeh, qui fait entendre sa voix en racontant son histoire et l'histoire de millions de femmes en Afghanistan.
La rappeuse Sonita Alizadeh lutte actuellement contre le mariage forcé, après avoir réussi à échapper par deux fois au mariage que sa famille lui imposait en échange d'argent. Influencée par Eminem, elle décide de se mettre au rap, qu'elle considère comme un moyen de raconter son histoire. Je vous propose d'écouter un extrait de son titre, Selling Bride. Intéressons-nous plus particulièrement à ce sujet préoccupant. Les droits des femmes afghanes n'existant pratiquement plus, ces citoyennes ne peuvent plus travailler, ce qui, bien évidemment, a un impact sur l'économie. Nous avons demandé à des gens dans la rue ce qu'ils pensaient de la situation en Afghanistan. Que pensez-vous des conditions de vie des femmes en Afghanistan ?
C'est compliqué.
Oui, c'est exécrable, si on peut dire ça.
Très mauvaise, il n'y a pas beaucoup de droits des femmes là-bas, surtout depuis le retour des talibans.
C'est effroyable. Moi, je les plains. Elles ne sont plus rien. Et il y en a quelques-unes qui luttent et qui osent s'afficher, notamment sans le voile, etc. Mais c'est très préoccupant. Elles auraient bien besoin d'être aidées, mais comment ? Comment être aidées ? Je ne sais pas. Non, c'est dramatique.
Moi, de ce que j'en entends, parce que je ne sais pas la situation exacte, mais ce sont des conditions très extrêmes où la femme est vraiment reclue et un peu dominée comme un objet ou comme un bien qu'on garde pour soi. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de colère et de contrôle envers les femmes. Tout ça doit venir d'une énorme frustration. Moi, personnellement, c'est mon point de vue, mais le port du voile, je trouve qu'en soi, c'est une belle idée. C'est l'idée qu'on ne juge pas l'autre personne en fonction de son physique et que ce n'est pas le critère principal de jugement et qu'on ne regarde pas forcément la femme pour ses attributs physiques. Mais là, c'est clair que ça va beaucoup trop loin. C'est une mentalité de contrôle et de domination et de frustration aussi, sûrement. Et voilà, ça ne m'étonne pas que ça va appauvrir la région et créer une dynamique assez stressante entre les hommes et les femmes. Et à mon avis, ça ne doit aider personne, ni les talibans, ni les femmes.
Trouvez-vous qu'on parle suffisamment de la situation en Afghanistan ?
On en parle, mais pas du tout beaucoup, quoi. Ouais, presque pas. Enfin, ça change, qu'on en parle ou pas, ici, ça change rien à ce qui se passe là-bas.
Non, à cause des nouveaux conflits entre Gaza et l'Ukraine, bah, ça a un peu passé sur le côté pour le moment.
Moi, je dirais oui, parce que moi, je suis une fan de Arte, et il y a énormément de reportages sur tous les problèmes dans le monde, et notamment en Afghanistan, en Syrie, en Ukraine, et j'en passe. Mais bon, tout le monde ne regarde pas Arte, c'est ça le problème. Mais peut-être que... Moi, personnellement, je pense que je suis relativement bien informée, en tout cas de la situation des femmes, parce que c'est de ça qu'on parle surtout pour le moment.
Et auriez-vous des solutions pour qu'on en parle plus ?
Des solutions, non. Maintenant, je pense que s'il se repasse des événements tragiques, malheureusement, ben, ça va repasser dans les médias.
Mais peut-être toucher des chaînes qui sont plus basiques. En parler, par exemple, au JT de la Une, qui est complètement nulle, la Une. On parle que de grève et... jamais rien de positif et peu de solidarité. Donc, toucher des chaînes basiques, RTL, La Une, enfin toutes ces chaînes-là, en parler à la radio, en parler dans les écoles, et que les enfants en parlent à leurs parents.
Que les médias en parlent plus, que potentiellement les associations ou les humanitaires en parlent plus, en communiquent plus aussi.
De plus en plus de familles marient leurs filles en échange d'argent. Depuis le retour des talibans, le taux de pauvreté est passé de 72% à 97%, ce qui plonge une énorme partie de la population dans la misère. Les chiffres sont alarmants. L'UNICEF estime que 28% des femmes originaires d'Afghanistan et âgées de 15 à 49 ans ont été mariées avant d'être majeures.
De même, la plupart des adolescentes ne sont pas autorisées à aller à l'école, alors que l'éducation est l'une des meilleures protections contre les mécanismes d'adaptation négatifs. Il y a donc une différence majeure entre les droits des femmes en Belgique et en Afghanistan, n'est-ce pas Noémie ?
Oui, en effet Juliette, les femmes afghanes n'ont presque plus de droits. Faisons une comparaison historique avec la femme belge pour bien nous rendre compte. Nous commençons en Belgique, où en 1923, les femmes ont le droit de conduire. Alors qu'en Afghanistan, depuis 2022, les talibans ont enlevé ce droit aux citoyennes. Parlons maintenant du droit de vote. En 1949, les femmes belges obtiennent ce droit, droit que les Afghanes ne posséderont pas actuellement.
Et un autre droit, c'est celui du divorce.
Oui, en 1970, les dames belges peuvent divorcer. Et en 1976, on voit même les premiers comptes en banque tenus par des femmes. Malheureusement, les Afghanes n'ont jamais pu en dire autant.
Et au niveau de la scolarité, ça se passe comment ?
1881 est une grande année pour les Liégeoises, qui peuvent enfin s'inscrire à l'université. Rappelons qu'en 2022, les citoyennes afghanes n'ont plus le droit d'aller à l'école après 12 ans.
Et en ce qui concerne le sport ?
Eh bien, c'est au même moment que tombe l'interdiction de faire du sport, d'aller seule dans un espace public. En 2024, on apprenait même que toutes les fenêtres où l'on pouvait apercevoir une femme devaient être murées.
Merci Noémie. On va maintenant s'écouter Amami de Youssef Dayes, dont tu nous parleras juste après, Igor. Toujours sur 48 FM, vous écoutez Culture et Enjeux. On va maintenant passer à un tout autre registre. Igor, tu vas nous parler de l'artiste que nous venons d'entendre.
Youssef Daes et son quartet, basé à Londres et composé de Rocco Paladino à la basse, Malik Vena au saxophone, Elijah Fox au clavier et de lui-même aux percussions, est passé au Japon en janvier dernier. Et à l'occasion de sa présence, son quartet et lui ont donné un concert entier au pied du Mont Fuji, accompagné de la musicienne japonaise Minami Kizuki, au sanshin et au chant. Tout son concert, entrecoupé de ses impressions du pays, sont regroupés en un documentaire disponible sur YouTube.
Merci Igor, et on reste au Japon avec ta chronique Eden.
Rebonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une de mes plus grandes passions, la musique japonaise. Si vous étiez sur TikTok en septembre 2023, vous devriez probablement connaître cet air. Cette musique est nommée Lolikami Requiem et est chantée par Shigure Ui. Elle est sortie le 25 mai 2022 et a vraiment percé en septembre 2023, ayant fait 10 millions de vues en une semaine après que cette musique devienne connue. Mais sa popularité est problématique due à comment elle est vue. C'est devenu un mème.
Mais où est le problème avec ça, Eden ?
Eh bien, Lolikami Requiem critique un phénomène populaire dans le monde de la pop culture japonaise nommé le Lolicon.
Et c'est quoi le lolicon ?
Le lolicon est un genre littéraire sexualisant des filles mineures n'ayant généralement pas atteint l'adolescence. Il y a le même phénomène mais avec des garçons et c'est nommé shotacon, mais malheureusement, celui-ci est peu dénoncé. Shigure Ui, dans sa musique phare, tente de montrer aux gens aimant le lolicon à quel point ils sont répugnants et même plus que le phénomène en lui-même.
Malheureusement, certaines personnes pensent que la musique défend justement ce phénomène, alors que c'est le contraire.
Effectivement. Suite à l'explosion de Lolikami Requiem en septembre 2023, beaucoup de gens du monde ont fait des vidéos pour expliquer la musique. Ce qu'elle raconte, pourquoi la chanteuse l'a écrite, ce qu'est le lolicon, etc., etc. En tout cas, Shigure Ui aura le mérite d'avoir critiqué cette partie dégoûtante de la société tout en étant créative. Bon, pour un peu détendre l'atmosphère de tous ces sujets sérieux, voici des sujets un peu plus doux.
Tu vas maintenant nous parler de la réédition des light novels Haku no Taizai.
Mothi, producteur de musique ayant créé la saga Evilus Chronicles, a décidé de rééditer les light novels basés sur cette même saga. Le 20 janvier dernier, la maison d'édition Fukan annonce sur X la réimpression des light novels Haku no Taizai. Ils expliquent que, suite à une très forte demande de réimpression, ils vont finalement refaire ces light novels avec un nouveau look tout en gardant le même illustrateur. Ils seront imprimés mensuellement à partir de mars 2025, même si on peut déjà les retrouver sur certains sites web tels que Amazon sous forme d'e-book.
Est-ce que les fans de la saga se réjouissent de cette nouvelle ?
Bien évidemment. Ils sont super excités et espèrent grandement qu'ils seront traduits en anglais, mais surtout expédiés dans le reste du monde car c'est très compliqué de trouver des sites bon marché pour acheter des produits vendus uniquement au Japon.
Pour terminer ta chronique, tu vas maintenant nous parler de Vocaloid. On écoute un extrait. Kimimo !
Ce 15 mars, Vocaloid aura 21 ans. Pour ceux qui ne le savent pas, Vocaloid est un logiciel permettant de faire chanter des personnages dans un style généralement manga tel que Hatsune Miku avec des voix préenregistrées. Malgré une visible régression due au nombre de logiciels du même genre innovant la formule, les fans sont toujours aussi ravis d'écouter des musiques chantées par leur Vocaloid favori, même 21 ans après.
Merci Eden, notre émission touche déjà à sa fin. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie.
On se quitte en musique avec White Ferrari de Frank Ocean. Bonne journée sur les ondes de 48 FM.
Bad luck to talk on these rides. Mine on the road, your dilated eyes. Watch the clouds float, white Ferrari.
had a good time.
16, how was I supposed to know?
And you know anything? I let you out at Central. I didn't care to state the plan. Kept my mouth closed. We're both so familiar. White Ferrari,
stick good by me, close by me.
You were fine. You were fine.
As distance slow by, left when I forget to speak. So I text the speech, lesser speeds, Texas speed, yes. Basic takes its toll on me, eventually, yes. On me, eventually, yes.
I care for you still, and I will forever. That was my part of the deal. Honest, we got so familiar. Spending each day of the year, white Ferrari.
Oh,
good times. In this life, in this life.
It's just a skull, at least that's what they call.